Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Comment s'est formée la langue qui correspond au bon usage? Mais qu'est-ce donc que le bon usage? Au cours des deux premières émissions de la série de Chemin de la connaissance, consacrée aux rituels de cours, Françoise Lebrun s'était intéressée au cérémonial, au code, à l'étiquette, au protocole. Ah, le protocole à Versailles. Le lever, le coucher, le déboté, les entrées, les grandes entrées du roi. Le roi qui se séparait en deux corps, qui mettait en scène son corps et son absence. Lorsque le roi et la reine sont vus, ils sont théâtralisés. Quand ils s'éloignent du regard des courtisans, commencent les interrogations. Les courtisans, tellement rassurés par les rituels. Mais revenons à la langue. Donc, oui, comment s'est formée la langue correspondante au bon usage? Réponse dans ce troisième volet de cette série, épisode diffusé pour la première fois sur France Culture le 6 juillet 1994.
Rituel, étiquette, la cour, troisième mouvement, le mot. Il n'y a en France que le pur français, ou pour mieux dire que le langage de la cour qui puisse être employé dans un ouvrage sérieux, parce qu'il en est dans un royaume du langage comme de la monnaie. Il faut que tous les deux, pour être de mise, soient marqués au coin du prince. Petit texte de Charles Perrault dans le parallèle des anciens et des modernes. Donc aujourd'hui, nous allons voir avec Daniel Trudeau, qui est professeur de linguistique à l'Université de San José en Californie, quelle est justement la marque du prince sur l'élaboration du langage qui se fait à cette période précise. Donc tout d'abord, quelle est la mise en place des normes de la langue française? Comment la langue est utilisée comme un jeu d'échecs? Et quelle est la fonction politique du bon usage?
Le bel usage est une notion qui est apparue au XVIe siècle et dans l'entourage des parlementaires, en fait, c'est plus une notion de rhétorique. Le bel usage étant, en fait, la manière de bien s'exprimer en public. Le bon usage est plutôt de nature sociale. C'est la mise en forme du langage dans les conversations familières, ordinaires. Et cette notion va se dégager progressivement au XVIe siècle pour parvenir à la formulation qu'en a donnée Vaugelas en 1647.
Voici comment on définit le bon usage. C'est la façon de parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie des auteurs. Quand je dis la cour, j'y comprends les femmes comme les hommes, et plusieurs personnes de la ville où le prince réside, qui, par la communication qu'elles ont avec les gens de la cour, participent à sa politesse. Il est certain que la cour est comme un magasin, d'où notre langue tire quantité de beaux termes pour exprimer nos pensées, et que l'éloquence de la chair, ni du barreau, n'aurait pas les grâces qu'elle demande, si elle ne les empruntait presque toutes de la cour. Je dis presque, parce que nous avons encore un grand nombre d'autres phrases qui ne viennent pas de la cour, mais qui sont prises dans les meilleurs auteurs grecs et latins, dont les dépouilles font une partie des richesses de notre langue, et peut-être ce qu'elle a de plus magnifique et de plus pompeux. Toutefois, quelque avantage que nous donnions à la cour, elle n'est pas suffisante toute seule pour servir de règle. Il faut que la cour et les bons auteurs y concourent. Et ce n'est que de cette conformité qui se trouve entre les deux que l'usage s'établit.
Alors, si le bel usage était d'origine savante, le bon usage est plutôt d'origine mondaine et définit plutôt un usage mondain de la parole. Bien que certains orateurs se soient nettement inspirés de Vaugelas au XVIIe siècle, il n'en reste pas moins que la doctrine que l'on connaît comme la doctrine du bon usage, qui a été lancée par Vaugelas, s'appliquait davantage aux situations d'échanges mondains.
Et comment s'est formée cette langue qui correspondrait au bon usage, en fait?
S'est-elle formée?
Ou déformée?
Il faut plutôt voir le bon usage non pas comme une langue, mais comme un ensemble de préceptes, de principes. à observer lorsqu'on prend la parole. C'est-à-dire ne pas utiliser, par exemple, d'expressions qui sont d'origine populaire, notées populaires. Et c'est au XVIIe siècle que l'on commence nettement à inscrire ce que l'on entend par des expressions plébées. Le bon usage contient aussi des préceptes qui s'appliquent aux sciences. Il ne faut pas utiliser, par exemple, d'expressions savantes, recherchées dans la conversation familière. Si vous connaissez la doctrine de l'honnête homme, pour Nicolas Faret, par exemple, le bon usage se dégage de toutes les ordures qui traînent dans le langage un peu partout, que ce soit dans la rue, que ce soit à la cour, que ce soit au Parlement, etc. Donc il s'agit en fait d'arriver à un noyau qui est finalement très, très restreint de la langue et qui est ce noyau pur que parlerait, selon Vaugelas, la plus saine partie de la cour et non pas seulement la cour.
Est-ce qu'on peut dire que c'est au XVIIe, enfin au début du XVIIe, que c'est vraiment très très réglementé l'usage de la parole, je dirais? Et est-ce qu'auparavant, le fait qu'il puisse exister des dialectes encore, ou des mots d'origine populaire, provinciale, des accents différents, tout ça a été tout à fait normalisé, me semble-t-il, et par un usage et par l'institution d'organes propres à ça, comme l'Académie.
La sensibilité aux variations linguistiques est déjà présente au début du XVIe siècle. C'est un peu anecdotique, puisque certains auteurs mentionnent, par exemple, qu'ils ont entendu parler tel personnage avec un accent normand, un accent du Midi. Bon, leur sensibilité est déjà développée, donc cela veut dire qu'il existe déjà dans la société une norme que j'appelle, moi, spontanée, en fait, qui est réglée par des facteurs sociaux, linguistiques, mais qui n'est pas encore codifiée. Parce que à cette époque, les savants détiennent en fait le privilège du discours écrit, détiennent en fait une certaine autorité sur tout ce qui s'écrit à propos des objets scientifiques. La langue est-elle un objet scientifique à cette époque-là? Elle l'est du point de vue des grammairiens. Par conséquent, si se dégage une norme au XVIe siècle, c'est une norme savante qui est refabriquée. Au milieu du XVIe siècle, dans la défense et illustration de Dubellay, par exemple, Dubellay ne condamne pas les expressions qui sont d'origine dialectale, par exemple, ou d'origine régionale. Au contraire, il veut qu'on les mette à contribution pour former une langue littéraire très riche, puisque c'est l'idée de richesse qui domine à cette époque. Par la suite, on a observé que les auteurs de la Pléiade utilisent un nombre très restreint de termes régionaux. Ce qui veut dire que malgré tout, ils se norment eux-mêmes et qu'ils évitent les termes d'origine régionaux, employant davantage des expressions de ce code central, en fait, qui s'est élaboré déjà à partir du Moyen-Âge. Il faut donc être très prudent lorsqu'on dit qu'au XVIe siècle, toutes les expressions étaient acceptées, qu'il n'y avait aucune norme. La sensibilité aux variations est très développée déjà à cette époque-là. Mais elle n'a pas encore trouvé sa formulation théorique telle qu'elle va se développer à partir de Malherbe, par exemple, puis à partir de Vaugelas, ou très nettement avec Vaugelas, les expressions régionales seront rejetées.
Oui, donc si on enlève les expressions régionales, qu'est-ce qui reste?
Il reste, en fait, il reste ce qu'on appelle la langue de l'honnête homme, c'est-à-dire l'honnête langage, le vocabulaire, le lexique que tout le monde peut comprendre, paraît-il. Un vocabulaire très restreint qui n'est pas marqué, ni socialement, ni régionalement.
Pas socialement, s'il appartient déjà à l'honnête homme, ça signifie quand même une catégorie, donc c'est quand même socialement marqué. Mais vous voulez dire par là qu'il n'est pas de termes de métier, par exemple, ou...
Voilà, l'élimination des termes de métier fait partie aussi de cette idéologie du degré zéro de la langue, en fait. Vous savez que dans les idéologies linguistiques, généralement, celui qui parle n'a pas d'accent. C'est son interlocuteur qui a un accent. C'est donc ce qui s'établit, en fait, avec la doctrine du bon usage ou de la langue de la cour. C'est ce discours selon lequel le courtisan, le parfait courtisan, peut être entendu par tout le monde, peut s'exprimer sur tous les sujets en utilisant un vocabulaire vraiment très restreint, tout en étant compris de tout le monde. Mais lui peut ne pas comprendre et a le droit de ne pas comprendre tout interlocuteur qui utiliserait un vocabulaire qui dévie par rapport au bon usage de la cour. C'est le cas, par exemple, de ces dames de la cour qui, en lisant un livre d'histoire, étaient tombées sur le mot « expédition » qu'elles ne comprenaient pas. Par conséquent, Vaugelas condamne cet auteur d'avoir utilisé un mot le mot « expédition », puisqu'il n'est pas entendu par les dames de la cour.
Oui, mais est-ce qu'on pourrait dire que effectivement c'est presque le seul moment où, je parle du XVIIe siècle, enfin 1650, 60, etc., où la cour va être l'ordonnancière de la langue.
Je dirais qu'après Vaugelas, après 1647, l'autorité de la cour sur la langue est toujours contestée dans les milieux savants, mais elle s'établit effectivement comme norme. Et pour une période assez courte, d'ailleurs, mais puisque par la suite, ce sont les auteurs qui serviront de référence au bon usage. Mais c'est effectivement un cas assez unique ici.
Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment.
Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un amour.
Non, je ne veux point tout cela, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Il faut bien étendre un peu la chose.
Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tourné à la mode, bien arrangé, comme il faut. Mmh. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre.
On les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux.
Ah.
Ou bien, vos yeux beaux, d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour.
Ah, mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure ?
Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Est-ce qu'on peut dire que pour participer à cette société, pour être dans cette société de cour du XVIIe, non seulement il faut savoir maîtriser son corps, c'est-à-dire ne pas laisser apparaître les sentiments, ne pas faire de gestes déplacés et qui déplacent la personne, mais aussi tout à fait maîtriser sa parole et éventuellement même sa voix?
Oui, puisqu'il y a toujours un risque à prendre la parole dans l'espace mondain, qui est en même temps le lieu où se font ou se défont non seulement les réputations mais les carrières. Il est toujours dangereux de s'exprimer d'une façon qui ne sera pas reçue socialement. La doctrine du bon usage que mettent en place d'abord les écrivains au début du XVIIe siècle, mais dans un but littéraire, ensuite des personnages comme Vaugelas, cette doctrine vise très nettement une discipline du mondain, dans le but justement de lui faire mériter la distinction, si jamais ce personnage parvient à une distinction. Il est possible, d'après ce qu'on peut lire chez Beaujolais, il est possible d'obtenir cette distinction par la parole sans avoir nécessairement la naissance. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est le but d'un ouvrage comme Les Remarques de Beaujolais. Donc, il y a une universalité qui est prévue dans cette doctrine du bon usage. Et c'est probablement la raison pour laquelle le bon usage reviendra au XIXe siècle, reviendra encore sous la forme du français standard aujourd'hui, et se présentera toujours comme la façon d'obtenir la reconnaissance sociale.
Oui, vous parlez d'une jeune provinciale qui vient à Paris. Mm-hmm. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus longuement?
Oui. Oui, il s'agit d'un passage du Grand Cyrus dans lequel la demoiselle, qui se nomme Amestris, sait par intuition qu'elle ne doit pas parler beaucoup à la cour, puisque venant de la province, si elle parle beaucoup, elle risque de prononcer avec un accent ou encore d'utiliser certaines expressions qui ne sont pas admises à la cour, ne le sachant pas. Donc, elle est condamnée ni plus ni moins au silence et à l'observation pendant les premières semaines où elle vit à la cour. Et c'est ainsi qu'en observant, donc, il s'agit véritablement ici d'une... On le voit très bien qu'il s'agit en fait non pas d'une discipline savante, mais d'une discipline qu'on acquiert par conformisme en observant le comportement des autres. Donc c'est le regard des autres qu'on s'habitue à projeter sur soi. C'est nettement la définition du conformisme.
Amestris savait qu'il y a une notable différence de l'air de la cour à celui des provinces. Elle parlait avec modération et ne se hasardait pas légèrement. Et véritablement, c'est le seul secret dont se peuvent servir les provinciales en arrivant à la cour, si elles veulent y acquérir quelque estime. Car quelque adresse que puissent avoir les personnes nouvelles venues, il est impossible qu'elles ne fassent pas quelque manquement si elles se commettent à parler beaucoup. Le Grand Cyrus, Mademoiselle de Scudéry.
Il faut voir en fait cette discipline de la langue, comme vous le dites, à l'intérieur de toute la discipline des comportements et d'un protocole, discipline de l'habillement, etc., des façons d'être, des façons de se conduire dans le monde, qui vise à dégager l'individu de ses origines pour l'assimiler totalement à ce nouveau milieu qu'est la cour.
Je reprends quelques lignes de Spanheim à propos de Louis XIV et de sa pratique de la parole, justement. Aussi parle-t-il peu, mais à propos, s'exprime avec justesse et avec dignité, et se ménage dans les rencontres d'éclat ou d'audience qu'il donne, pour s'y enfermer dans les bornes qu'il se prescrit, sans s'étendre au-delà, et ainsi sans que rien lui échappe, qui puisse lui faire tort ou donner aucune prise. Et là, le roi lui-même, apparemment, enfin, il est très connu pour son laconisme, enfin, le fameux « je verrai » et puis ça s'arrête là. Donc lui-même accorde une telle importance aux mots qui pourraient échapper. Comment est-ce que des personnes peuvent vivre une telle rétention verbale?
Ah. Comme on le disait tout à l'heure, les enjeux sont importants. On ne va pas à la cour simplement comme on va au bal du 14 juillet, certainement. On y va pour obtenir des faveurs, on y va pour demander une grâce quelconque, on y va pour maintenir sa réputation. Donc on est en représentation. Le roi n'est pas celui qui parle de tout en utilisant n'importe quelle expression pour dire n'importe quoi. Il n'a pas le droit de parole absolu. Même s'il est monarque absolu, il a le droit du silence. Et c'est encore beaucoup plus puissant, c'est encore beaucoup plus un plus grand signe de pouvoir que de ne pas réagir immédiatement. C'est quelque chose que les féodaux devront apprendre, c'est-à-dire se contrôler ou reculer pour mieux sauter. Vous voyez, calculer la portée du mot, même du mot innocent, qu'ils lanceront à quelqu'un qui voudra les insulter, par exemple. Donc, cette économie du signe, cette économie du mot, est vraiment très importante. On pourra très bien l'opposer, par exemple, à l'espèce de débauche verbale qu'on a au XVIe siècle, et les historiens de la langue l'ont souvent fait, puisqu'on a l'impression que le XVIe siècle est la période de l'accumulation un peu anarchique des mots, et que la signification même des expressions semble perdue, semble diluée dans cette accumulation. Le XVIIe siècle pratique l'économie, l'investissement. Prononcer une parole, c'est placer, ou se placer soi-même, s'investir soi-même. Par conséquent, il faut être parcimonieux et obtenir le plus grand rendement du mot bien placé. Vous disiez aussi tout à l'heure qu'il s'agissait d'une sorte de jeu de rétention. Effectivement, j'y pensais tout à l'heure, il y a cette dimension du jeu. Jeu non pas au sens ludique, débridé, tel qu'on l'entend souvent aujourd'hui, mais jeu au sens jeu d'échecs, qui est très importante pour la vie de cour au XVIIe siècle. Je pense que si une doctrine comme celle du bon usage a pu être si importante au XVIIe siècle, c'est parce que les individus qui composaient la cour, les mondains, ont senti qu'il s'agissait d'un jeu d'intelligence, d'une pratique qui visait à montrer la plus grande habileté et non pas la force toute brute. Donc c'est un jeu d'habileté, c'est un code qu'on accepte parce qu'il s'agit d'obtenir des avantages, le principal avantage étant la reconnaissance sociale, la reconnaissance mondaine, faire partie de ce corps d'élite qu'est la cour.
A, E, I, 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 I. Cela est vrai, vive la science!
La voix haut se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. Haut,
haut, haut! Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. I, O, I, O.
L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O.
Oh, vous avez raison. Oh, ah, 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 la belle chose que de savoir quelque chose.
La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait.
Il n'y a rien de plus véritable.
Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que...
Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela?
D'une certaine manière, vous parlez de la fonction politique de ce bon usage qui arrive, qui consiste à couper, effectivement, une société en deux clans.
Oui, oui, alors qu'au XVIe siècle, les auteurs qui décrivent d'ailleurs le processus d'acquisition de la langue de la cour, je pense par exemple à Jacques Pelletier-Dumont, le décrivent très nettement comme un processus de désapprentissage des habitudes qu'ils avaient acquises. Néanmoins, ils conservent, et ils en sont fiers très souvent, ils conservent des traces de leur dialecte maternel ou du français régional à cette époque. Mais au XVIIe siècle, on ne voit plus tellement cette attitude. Au contraire, il s'agit nettement de s'identifier au milieu de la cour, qui est le pôle d'identification le plus fort. Et ce processus aboutit effectivement à couper les nobles, la noblesse du peuple. Alors qu'auparavant, le noble sur ses terres s'exprimait de la même façon que les paysans. Du moins, recourait souvent au dialecte. Et il y avait comme un phénomène de diglossie à cette époque. Alors qu'il y aura rupture à partir du XVIIe siècle, rupture dans la mentalité, peut-être pas nécessairement dans la pratique totale, mais du moins dans la mentalité. Cette conjonction entre le domestique et son maître, entre le valet et son maître, entre le paysan et... le seigneur, cette conjonction va disparaître. Il devient impensable, par exemple, de s'exprimer dans les termes de la populace.
C'est une façon de scier les branches de la fronde, pour rester une image.
Je le vois bien comme ça, oui, en effet, en effet. Enfin, un des résultats sera effectivement de séparer nettement le peuple, c'est-à-dire cette masse qu'on ignore, qu'on ne connaît plus, de ceux qui forment la nation symbolique, le corps symbolique de la nation.
C'était Les Chemins de la connaissance, rituel de cours, vertige d'un ordre. Troisième émission, Le mot, avec Daniel Trudeau, professeur de linguistique à l'Université de San José, en Californie. Une émission de Françoise Lebrun, réalisation Jacques Taroni. Première diffusion sur France Culture le 6 juillet 1994. Prochaine émission, Du mot au geste.